Au micro, Idrissa Seloudia, Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Le premier ministre ivoirien, Ahmed Bakayoko, est mort mercredi à l'âge de 56 ans dans un hôpital en Allemagne des suites d'un cancer, 8 mois après le décès de son prédécesseur, Amadou Gon Coulibaly. Bakassi Koura et Eric Manira Kidza nous en parleront. Au Sénégal, le président Macky Sall a décrété un deuil national à la mémoire des défunts pour la journée de jeudi, après les manifestations qui ont fait au moins 5 morts, annonce-t-on dans un communiqué gouvernemental. La vie a repris son cours normal à Dakar, nous signale Seydina Abagay, que nous retrouverons en seconde partie de cette édition. Les États-Unis ont placé mercredi 2 groupes extrémistes islamistes opérant en République démocratique du Congo et au Mozambique sur la liste des organisations terroristes après qu'elles ont été accusées d'avoir des liens avec le groupe djihadiste État islamique. Les forces démocratiques alliées, les ADF en RDC et leur chef Seka Moussa Baluku et le groupe Arlu Suna Wajama au Mozambique et son chef Abou Yassir Hassan ont été nommés terroristes mondiaux désignés spécifiquement. Ces désignations interdisent aux membres de ces groupes de voyager aux États-Unis, gèlent tous les avoirs liés aux États-Unis, interdisent aux Américains de faire commerce avec ces groupes et qualifient comme crime tout soutien à l'un d'eux. Par ailleurs, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a dénoncé pour la première fois mercredi ce qu'il a qualifié d'acte de nettoyage ethnique au Tigré, région d'Éthiopie où Addis Abeba a lancé début novembre une opération militaire contre le pouvoir régional. Parlant au Congrès, il a estimé que les forces sur place devaient s'abstenir de violer les droits humains des habitants du Tigré ou de commettre des actes de nettoyage ethnique, comme nous en avons constaté dans le Tigré occidental. Il a évoqué 2 défis en matière de sécurité, la présence de forces venues d'Érythrée et d'Amara qui doivent partir et les violations des droits humains par les forces déployées au Tigré. Cela doit cesser, a-t-il martelé, réclamant à nouveau une enquête indépendante et un processus de réconciliation. Le Bénin a reçu mercredi soir son premier lot de 144 000 doses de vaccin AstraZeneca contre le COVID-19 grâce au dispositif COVAX créé par l'OMS au bénéfice des pays les plus démunis, a constaté l'AFP. Le pays comptait mercredi 6338 cas confirmés et 81 décès. De son côté, le Congo-Brazzaville a réceptionné mercredi ses premiers vaccins contre le COVID-19 sous la forme de 100 000 doses Sinopharm offertes par la Chine, très présente dans ce pays d'Afrique centrale. Officiellement, le pays compte plus de 5 000 cas, dont 120 décès. De l'autre côté du fleuve, la RDC, qui a réceptionné la semaine dernière 1,7 million de doses de vaccin AstraZeneca Oxford via le dispositif COVAX, a annoncé que la campagne de vaccination commencerait à Kinshasa le 15 mars. Il y a un an, l'OMS qualifiait le COVID-19 de pandémie, se disant profondément préoccupé par ces niveaux alarmants de propagation. Après des mois de chaos et d'efforts, la riposte s'est organisée dans le monde, mais reste inégale dans les régions. Le président américain Joe Biden s'est félicité mercredi d'une victoire historique pour les Américains après l'adoption au Congrès de son colossal plan de relance économique, un succès majeur 50 jours après son arrivée à la Maison-Blanche. De quoi faire souffler un certain vent d'optimisme sur le pays. Michel Joseph nous donnera des détails. Amnesty International a dénoncé jeudi des exécutions extrajudiciaires et le recours à des armes de guerre contre les manifestants pro-démocratie en Birmanie.
La suite de nos informations. Ahmed Bakayoko, le premier ministre ivoirien, est décédé hier en Allemagne à l'âge de 56 ans. C'est le président ivoirien Alassane Ouattara qui l'a annoncé dans un communiqué. Le point avec Bagassi Koura.
Ahmed Bakayoko est décédé dans un hôpital à Fribourg en Allemagne des suites d'un cancer, selon le président Alassane Ouattara, qui a rendu hommage à celui qu'il appelle son fils et proche collaborateur, trop tôt arraché à notre affection, a déclaré le président ivoirien dans un communiqué lu à la RTI, la télévision nationale. Ahmed Bakayoko, qui était également ministre de la Défense et maire d'Abobo, l'une des plus grandes communes d'Abidjan, avait été évacué en France pour raison de santé avant d'être transféré dans un hôpital en Allemagne le week-end dernier. Pour le remplacer lundi, le secrétaire général de la présidence ivoirienne, Patrick Hachi, a été nommé premier ministre par intérim. Tene Birahima Ouattara, ministre des Affaires présidentielles et frère cadet du président Alassane Ouattara, a été nommé ministre de la Défense par intérim. Ahmed Bakayoko, qui a eu 56 ans lundi, avait succédé en juillet 2020 au poste de premier ministre à Amadou Gon Coulibaly, décédé quelques jours après son retour d'une hospitalisation et d'une convalescence de 2 mois en France pour des problèmes cardiaques. Le président Ouattara, dont le parti, le RHDP, a remporté les législatives de samedi dernier, doit dans la foulée nommer un nouveau gouvernement, donc un tout nouveau premier ministre ivoirien.
Ici aux États-Unis, le président Joe Biden a salué hier l'adoption d'un gigantesque plan de relance de l'économie de 1 900 milliards de dollars. Il a aussi confirmé qu'il va signer vendredi cette loi à la Maison-Blanche. Michel Joseph.
Cette loi offre à ceux qui constituent l'épine dorsale de notre pays, les travailleurs qui l'ont construit et le font fonctionner, une chance de s'en sortir, a indiqué le président Joe Biden peu après l'adoption hier de ce texte par la Chambre des représentants dominée par les démocrates. 220 parlementaires ont voté pour et 211 contre. D'après la Maison-Blanche, cette législation va créer plus de 7 millions d'emplois et rendre les soins de santé plus abordables. Des millions d'Américains vont toucher des chèques allant jusqu'à 1 400 $ dans leur poche. En outre, ce plan prolonge jusqu'au 6 septembre des allocations chômage de $300 par semaine qui devraient expirer le 14 mars. Quelques 15 milliards de dollars sont consacrés à la vaccination, 10 milliards pour la production de vaccins et 50 milliards pour les tests et traçages. Le plan consacre aussi 126 milliards de dollars aux écoles, de la maternelle au lycée, pour soutenir leur réouverture malgré la pandémie. C'est un succès majeur pour Joe Biden. 50 jours après son arrivée à la Maison-Blanche, il va promulguer vendredi ce plan qui est l'équivalent du PIB de l'Italie.
La mission de la NASA qui s'est posée sur Mars il y a 3 semaines se poursuit et continue de révéler les secrets de la planète rouge. Grâce à sa super caméra, le rover Perseverance, qui jusque-là fonctionne bien, a déjà transmis de premiers éléments d'analyse des roches accompagnés de sons. Arzuma Compaoré nous en dit plus.
Les responsables de la mission ont annoncé hier les premières données venant du rover qui a atterri le 18 février dernier sur la planète Mars. Le supercam perché à la tête du rover permettra de déterminer la composition de la surface de la planète rouge et rechercher d'éventuelles traces de vie. Il a été conçu par des laboratoires français sous la houlette du CNES, l'agence spatiale française, en collaboration avec Los Alamos National Laboratory dans le Nouveau-Mexique. Selon son co-concepteur, Sylvestre Maurice, responsable à l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie, ses résultats sont la preuve de la très bonne santé de l'instrument. Une scientifique de la mission, Naomi Murdoch, a fait écouter des sons enregistrés pour la première fois sur Mars. La NASA a déjà enregistré un premier enregistrement de vent martien peu après l'atterrissage. Cette fois, on a pu entendre le bruit de cliquetis de l'impact du laser de Supercam quand il frappe une roche. Présenté comme le couteau suisse de la mission, Supercam réunit 5 techniques de mesure, dont une caméra et un micro, pour étudier la géologie de Mars et aider à la sélection d'échantillons qui reviendront sur Terre pour analyse.
Minute Éco, Claire Morin-Gibourg.
Au Niger, depuis hier, 154 000 ménages, soit environ plus d'un million de personnes, bénéficient de la vente à prix modéré de plus de 76 000 tonnes de céréales. Cette opération fait partie du programme d'assistance alimentaire du gouvernement. Les céréales mises en vente sont placées dans les chefs-lieux des communes ciblées et seront vendues à un prix fixe de 13 000 francs CFA le sac de 100 kilos. Sadou Sédou, le ministre du Commerce, a précisé qu'au au-delà de l'aide aux démunis, cela stabilise les prix des céréales sur les marchés avec une incidence positive sur le niveau de l'inflation. Le marché du sésame est en pleine croissance sur le continent africain grâce à une forte demande chinoise. En 2020, 1 million de tonnes de cette graine ont été importées par la Chine, en hausse de 25% par rapport à l'année précédente. L'Afrique compte pour près de la moitié de la production mondiale de sésame, dont le Soudan et l'Éthiopie, mais aussi le Niger. Ici aux États-Unis, le président Joe Biden a signé vendredi le gigantesque plan d'aide à l'économie souffrant des effets de la pandémie. Des millions d'Américains vont toucher un chèque allant jusqu'à 1 400 $ par personne à faible revenu. Ce projet de loi, qui vient juste d'être adopté par le Congrès, prolonge jusqu'au 6 septembre une allocation chômage de 300 $ par semaine.
Les sports à présent avec Nani Talani.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous. Résultat des matchs de la première journée de la phase de poule de la Coupe CAF qui se sont joués hier soir. Enyimba du Nigeria a battu à domicile Benghazi de la Libye par 2-1. Les Tunisiens du CF Sfaxien l'ont emporté à domicile sur les Burkinabés Salitas 1-0. Les Sénégalais de Jaraf ont été vaincus en Algérie par Étoile Sportive du Sahel 2-0. Les Pyramides FC d'Égypte ont soumis chez eux à leur loi Nkana FC de la Zambie 3-0. Namungo de la Tanzanie s'est inquiété devant les Marocains du Raja Casablanca 1-0. Idem pour les Camerounais de Coton Sport Garoua qui ont courbé les Chines devant les Algériens de la JS Kabylie 0-1. AS Sétif d'Algérie et Orlando Pirates d'Afrique du Sud se sont neutralisés 0-0. Enfin, Renaissance de Berkane du Maroc a fait plier Napsa Stars de la Zambie par 2-0. Ligue des champions en Europe, résultat des deux matchs comptant pour les huitièmes de finale retour qui se sont joués hier. Dans le premier match, Liverpool a battu Leipzig 2-0, le même score qu'à l'aller. Mohamed Salah a atteint la barre des 5 buts en ouvrant le score contre Leipzig à la 70e minute. Le Sénégalais Sadio Mané a inscrit le deuxième but des Reds, son troisième dans cet exercice. Dans l'autre huitième de finale retour, le PSG et Barcelone ont fait un nul de 1-1. C'est l'attaquant du PSG, Kylian Mbappé, qui a ouvert la marque sur un pénalty parfaitement exécuté face au Barça au Parc des Princes à la 30e minute. Il s'est ainsi qualifié en quart aux dépens du FC Barcelone de Lionel Messi, qui a quand même égalisé d'une frappe superbe, mais finalement vaine. États-Unis, la superstar des Lakers, LeBron James, qui a refusé de dire s'il se ferait vacciner contre le COVID-19, arguant que cela relevait de la sphère privée, se voit reprocher de ne pas vouloir montrer l'exemple auprès de la communauté afro-américaine. Tout en assurant qu'il ne rendrait pas la vaccination obligatoire pour les joueurs, le patron de la NBA, Adam Silver, a estimé que la plupart choisiront tout de même de s'y soumettre. Il espère que la Ligue puisse continuer à servir de plateforme de sensibilisation.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le Premier ministre de Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko, est mort mercredi à l'âge de 56 ans dans un hôpital en Allemagne déçu d'un cancer, 8 mois après le décès de son prédécesseur. M. Bakayoko, qui était également ministre de la Défense, avait été évacué en France le 18 février par avion spécial pour raisons de santé avant d'être transféré dans un hôpital en Allemagne le week-end dernier, au moment où se tenaient les élections législatives dans son pays. Pour une réaction, Eric Manirakidza, adjoint à Abidjan, le journaliste Honorat de Yedagne.
Beaucoup de désarroi. Je pense que je ne dirais pas beaucoup de désarroi et de froid. Mais il y a comme une sorte d'inquiétude, de doute qui s'est emparé de la population, de la classe politique. C'est un choc quand même.
Que représentait Bakayoko dans la vie politique ivoirienne?
Une génération de politiciens dont la carrière a été déterminé par le parrain, des gens qui ont eu un parcours sans faute, une longévité politique aussi, sans accroc, toujours sous un parapluie qui est celui du faiseur des jeunes de cette génération-là. Voilà, de part et d'autre, je veux dire, ça a marché pour lui, mais ça n'a pas marché pour les autres, comme le Soro, comme le Blé Goudé, mais on ne sait jamais.
Quel pourrait être l'impact de sa disparition?
Sans doute un long questionnement, et au bout de ce questionnement-là, une interrogation sur les rapports entre les uns et les autres en politique, parce que l'ambition des uns et des autres ne permet pas de prendre le recul nécessaire, de garder une grande part d'humanité, de conformité avec une certaine éthique en politique.
Est-ce que la majorité va facilement lui trouver un successeur?
D'abord, je pense que le chef de l'État voit parmi ces différentes personnes qui pourraient lui succéder. Sa marge de manœuvre est très réduite chaque fois qu'on perd un premier ministre de cette trempe-là, comme ce fut le cas de Don Koulibaly. Mais je pense que la bonne manière de conduire notre pays, ce n'est pas de se chercher des successeurs, c'est de laisser se libérer la capacité des uns et des autres à avoir du leadership et à pouvoir assumer des postes de responsabilité. Donc, de laisser les gens aller conquérir ces postes-là par leur capacité à affirmer leur leadership. Mais il se trouve qu'en Afrique, c'est pas en Afrique et ailleurs, d'ailleurs, ce n'est pas qu'en Afrique, mais en Afrique, généralement, c'est pas comme ça qu'on voit la politique, c'est pas notre façon de faire la politique. Donc, on se cherche forcément sur ce sens. Mais si on parle d'une simple logique que le chef de l'État travaille à trouver quelqu'un qui puisse correspondre à ce qu'il souhaite, il en trouvera. Est-ce que maintenant, les Ivoiriens vont l'accepter, ça c'est autre chose.
Le journaliste Honorat de Yedagne, joint à Abidjan.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
En Mauritanie, l'ex-président Mohamed Ould Abdelaziz est retenu depuis mardi dans les locaux de la Direction générale de la Sûreté nationale avec plusieurs de ses ex-ministres et anciens directeurs de Société nationale. Il est en voie de déferlement au parquet général avec le risque d'être inculpé pour corruption et malgouvernance pendant qu'il était à la tête du pays. Des détails avec notre correspondant Mohamed Diop, à Nouakchott.
Dans ce dossier de corruption et de malgouvernance, l'ex-président Mohamed Ould Abdelaziz a été auditionné plusieurs fois. À chaque fois, il a gardé le silence. Ses avocats évoquent son immunité présidentielle, indiquant que seule la haute cour de justice peut inculper ou juger l'ex-président en cas de haute trahison. Mais si Mohamed Ould Abdelaziz reste silencieux devant les enquêteurs, ses partisans, eux, ne le sont pas dans la rue.
Nous sommes des citoyens venus exprimer notre déception quant à l'arrestation de notre leader, cet homme qui a été le premier à organiser une alternance démocratique au pouvoir en Mauritanie à travers des élections libres et transparentes. Il a légué le pays à un candidat qui a fait l'unanimité même du côté de l'opposition, le candidat qu'il a lui-même soutenu.
Les partisans de l'ex-président se mobilisent depuis l'annonce de sa détention en compagnie de près d'une trentaine de personnes, des anciens ministres et anciens directeurs de Société nationale à la Direction générale de la Sûreté nationale. en attendant leur déferlement devant le parquet général.
À part le président Mokhtar Ould Dada, on n'a jamais eu un autre président comme Mohamed Ould Abdel Aziz. Et tout le monde est témoin de ce qu'il est en train de subir. Comment l'actuel président peut faire juger celui qui l'a aidé à arriver au pouvoir? Tout le monde doit sortir pour dénoncer cela. Que tout le monde sorte. Et puis, ce n'est pas le président Aziz et ses ministres qui seraient les seuls fautifs.
Mohamed Ould Abdelaziz est indexé dans un rapport de 800 pages d'une commission d'enquête parlementaire qui révèle la passation irrégulière de 109 marchés publics d'une valeur de 1,14 milliard de dollars durant sa décennie de règne. Des marchés relatifs à l'énergie, aux infrastructures et à la construction du nouvel aéroport de Nouakchott. Le rapport note également la mauvaise gestion du foncier à Nouakchott, du Fonds national de revenus des hydrocarbures et de la CINIM, la Société nationale industrielle et minière. Il y a aussi l'attribution irrégulière d'une concession au port autonome de Nouakchott. Mohamed Diop pour VOA Afrique, Nouakchott.
Après plusieurs jours d'émeutes, la vie a repris son cours normal à Dakar, mais certains quartiers portent toujours les stigmates de ces 5 jours de soulèvement populaire. Cependant, les citoyens reprennent le travail et les commerçants leurs activités. Notre correspondant à Dakar, Seydina Abagué.
Secoué par des vagues de manifestations violentes pendant plusieurs jours, Dakar, la capitale sénégalaise, retrouve le calme et l'activité économique progressivement. Des commerces comme celui de Samba viennent de rouvrir après une semaine de fermeture. Ce commerçant estime que les émeutes ont causé un énorme manque à gagner.
C'est pénible et c'est très dur. Nous sommes restés une semaine sans travailler. Je ne voulais pas prendre le risque d'ouvrir ma boutique. Je ne voulais pas m'exposer, de même que mes biens. Vous avez vu que beaucoup de magasins ont été pillés. En vérité, j'ai ouvert hier. Mes clients sont venus acheter aujourd'hui. C'est un énorme manque à gagner pour moi. Cependant, il m'est très difficile d'évaluer la perte financière.
Il n'est pas le seul commerçant impacté par les émeutes. Saliou est vendeur d'accessoires de téléphones portables. Pour préserver sa sécurité et celui de son commerce, il avait suspendu toutes ses activités. Il a repris service aujourd'hui et il souhaite que la paix soit durable.
J'ai marqué une pause. La situation sociopolitique était loin d'être rassurante et stable. J'ai repris les activités aujourd'hui. Pour rien au monde, j'allais prendre le risque de travailler ou bien d'aller dans la rue. J'allais être le seul perdant. Les politiciens n'en valent pas la peine. Tous les actes qu'ils posent, c'est uniquement pour leur intérêt. Ils ne respectent pas leurs engagements vis-à-vis la population.
Les récentes manifestations ont causé une dizaine de morts et 590 blessés, selon un bilan de la Croix-Rouge. Une situation plus que traumatisante pour Ibou Gueye. Il milite pour le retour de la paix dans tout le pays. Pour lui, cela passera par la libération des manifestants qui sont en ce moment en prison.
La situation sociopolitique est loin d'être stable. Pour qu'elle le soit, il faut libérer tous les prisonniers, d'autant plus que j'estime qu'il s'agit d'arrestations arbitraires. Car c'est dans l'intérêt de tout le monde que la paix revienne. Les victimes qui doivent être indemnisées, que l'État le fasse le plus rapidement possible. Nous souhaitons vivement le retour définitif de la paix au Sénégal.
Les manifestations ont cessé depuis près de 48 heures dans la capitale et le reste du pays. Cependant, l'opposition et la société civile réclament une enquête indépendante et la libération des détenus politiques pour une décrispation totale du climat social. D'ailleurs, vendredi, une manifestation pacifique sera organisée à la place de la Nation en la mémoire des défunts. Seydina Abagué à Dakar pour VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, la démocratie sénégalaise mise à l'épreuve. L'arrestation du député Ousmane Sonko a plongé le pays dans les pires violences de ces dernières années. Au moins 5 personnes ont perdu la vie et de nombreux dégâts matériels ont été notés. L'opposant a été inculpé pour viol et placé sous contrôle judiciaire. Ses partisans dénoncent un complot visant à l'éliminer de la course à la présidentielle de 2024. Ils demandent aussi au président Macky Sall de dire clairement qu'il ne briguera pas un troisième mandat. Nous discuterons de la situation politique au Sénégal avec nos invités ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique, voaafrique.com.
Le vendredi 12 mars, la CAF, la Confédération africaine de football, va renouveler son comité exécutif. Son candidate au poste de membre chargé du football féminin, la malgache Patricia Rajeriarason, la comorienne Kanizat Ibrahim et la togolaise Latrekaï Lawson. Notre correspondante à Lomé revient sur la candidature de la togolaise, ses idées et ses chances.
Latrekaï Lawson Hogban mise sur son expérience de plus de 3 décennies dans la discipline. Si elle est élue ce 12 mars, elle s'appliquera à la mise en œuvre de la stratégie de la CAF relative au football féminin sur le continent. Nous écoutons la candidate.
Au niveau de la CAF, il y a déjà un travail qui a été fait en amont, auquel j'y ai participé, et il y a une stratégie du football féminin qui a été éditée par la CAF. Mon intention serait d'exécuter cette stratégie et faire un planning pour la carrière des jeunes filles joueuses qui aimeraient toujours faire leur carrière dans le football.
Pour le journaliste sportif Franck Nounyama, en plus de son background, la candidate togolaise dispose d'un atout spécial.
Elle a toutes ses chances. C'est vrai que ses adversaires, la malgache et la comorienne, sont des gens très aguerris. La comorienne qui a dirigé, on va dire, le comité de normalisation de son pays, la malgache faisant partie déjà de la commission et qui a envie de prendre désormais le contrôle. Donc ça va être une très très grosse bataille. Maintenant, je pense qu'elle est sur la liste de Patrice Motsepe qui est pressenti comme nouveau président. Donc c'est un appui solide pour elle.
Les femmes qui pratiquent le football sur le continent veulent aussi s'épanouir comme leurs confrères. Kai Tometi, coach des éperviers dames.
Nous voudrions avoir beaucoup plus de femmes dans les instances décisionnelles et avoir beaucoup plus de compétitions zonales et sur le plan international pour que les footballeuses africaines puissent profiter et jouir de leur carrière.
Première femme arbitre de football du Togo et première africaine instructeur d'arbitre de la CAF et de la FIFA, celle qui dirige actuellement le département de l'arbitrage de la CAF, souligne la nécessité de laisser les femmes jouir de leur droit à faire du sport au même titre que les hommes. Latrekaï Lawson Hogban.
Le sport est le bien-être d'un individu et tout le monde a le droit au sport et les parents doivent laisser leurs enfants aller au sport. Je ne donne pas tort aux parents parce que peut-être que ses parents n'ont pas reçu une éducation entre griffes sportives parce que ce que la femme apprend est toujours transmis à ses enfants, à sa progéniture par l'éducation. Donc il faut une sensibilisation et ces filles qui doivent faire le sport aussi doivent savoir concilier le sport avec leur autre domaine privé.
Pour vraiment rendre à la femme sa place dans les instances sportives, il faut songer à respecter la recommandation du Comité international olympique d'avoir au moins 30% de femmes dans les bureaux exécutifs. La prochaine étape serait qu'une femme brigue la présidence de la CAF. Kyle Son, Lomé, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sejounia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.